faire danser. Bien sûr que je vais la faire bouiller. Oui, je vais la faire danser. Je vais la faire bouiller. Ah, c'est oui, je vais la faire danser. Eh, bordel! Oui! Oh là 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 là, eh frérot! À ce qui paraît, la gosse est ta soeur.
Radio de la paix, il est 12h. Le journal de midi, Jean-Claude Mabéa.
Bonjour à toutes et à tous au sommaire de cette édition de 12h. Les délibérations du Conseil d'État sur le contentieux électoral lié aux élections locales du 2 septembre 2023 ont débuté hier jeudi 21 septembre 2023. Pour cette première journée de délibération, ce sont 15 requêtes qui ont été traitées par les juges du Conseil d'État. Vous en saurez davantage en début de ce journal. En économie, la 9e édition du Forum international des affaires, dénommé Macutano, qui s'est tenu pour la première fois en Côte d'Ivoire, a pris fin hier à Abidjan. Premier réseau d'affaires d'Afrique centrale, cette rencontre était une opportunité d'affaires qui s'est offerte pendant 2 jours aux hommes et aux femmes d'affaires de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo. Actualité en Centrafrique, l'ex-président Bozizé en exil condamné à perpétuité pour rébellion. Et dans le dernier temps fort de ce journal, l'invité de la rédaction, après le PDCI RDA et le RHDP, Soro Adams s'entretiendra avec Kwaku Kra, le vice-président du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Il est chargé des élections sur la question des sénatoriales du 16 septembre 2023. Voilà pour l'essentiel. Bienvenue sur Radio de la Paix. Ce journal s'ouvre sur le contentieux des élections locales du 2 septembre 2023. 71 requêtes en contestation pour les conseils municipaux et 13 pour les conseils régionaux ont été déposées devant le Conseil d'État. Pour la première journée d'audience hier, jeudi 21 septembre, sur 15 requêtes traitées, seule celle de la commune d'Aféry a été renvoyée à l'audience du 28 septembre pour suite de l'instruction. Les 14 autres ont été rejetées, nous apprend Jean-Mélène Bitti.
Les juges du Conseil d'État ont donné les résultats de leur délibération ce jeudi 21 septembre 2023 au cours de l'audience publique. Sur les 15 requêtes du jour, 14 ont été rejetées pour requêtes mal fondées. Patrice Yaokwadio, président du Conseil d'État.
Grand Merebi, Sassandra, Ayame, Tanqui, Lanawa, Grand Pont, la Cour, après en avoir délivré conformément à la loi, décide, article 1er, requête de ce bar, mais mal fondée. Article 2, elle est rejetée. Article 3, les faits sont laissés à la charge trésor public.
Cependant, le contentieux concernant la commune d'Aféry a été reporté à la prochaine audience du 28 septembre 2023, indique le président du Conseil d'État.
Aféry, Mbo, Afo, Valentine, contre commission électorale indépendante, Beda, Assic, Célère, Maître, Déorable, Dé d'une part, Maître Subi, Gore d'autre part. La procédure est renvoyée à notre prochaine audience du 28 septembre 2023 pour poursuite de l'instruction.
À la fin de l'audience, le président élu du conseil régional de l'Indénier-Diablin se dit très satisfait de l'issue de la délibération.
On a fait une grande campagne où on a gagné dans les 3 départements. Mon adversaire a fait un recours, mais heureusement que le conseil d'État vient de délibérer et vient de nous donner raison que nous avons bel et bien gagné les élections.
Ces audiences se poursuivront jusqu'au mardi 10 octobre 2023 et auront lieu tous les mardis et jeudis à la salle d'audience du conseil d'État.
On prend la direction du Bunkani où le ministère de la Jeunesse, en lien avec l'emploi, l'agence emploi jeune de Bouna a formé au cours de ses vacances scolaires 2023 259 élèves et étudiants à travers des stages d'immersion dans des structures publiques et privées de la région. Ce projet s'inscrit dans le programme social du gouvernement dans sa lutte contre les facteurs de vulnérabilité des jeunes du Nord face à l'extrémisme violent et l'orpaillage clandestin. On en sait un peu plus avec Jérôme Kouassi, notre correspondant dans le Bunkani.
Le but de ces stages d'immersion, Diaba Donatien est le chef de l'agence emploi jeune de Bouna.
Des stages de mois pour occuper sainement les jeunes élèves et étudiants de la classe de seconde jusqu'au master 2. Nous avons les stagiaires à Téni, nous avons également les stagiaires à Doropo, à Nassien et même à Bouna.
La satisfaction de Doué Joseph, directeur exécutif de l'ONG L'Étoile du Bunkani, qui a reçu aussi des stagiaires.
Toujours présents, ils n'ont jamais rechigné à la tâche et ils ont essayé d'apprendre déjà sur le terrain ce qu'on doit faire dans la vie active.
Le jeune d'Africanté à la cérémonie de remise d'attestation de fin de stage à l'ONG L'Étoile, ce que cette immersion leur a apporté.
De toucher de plus près les outils exerçants d'une administration et apporter notre disponibilité à l'organisation des ateliers et des campagnes de sensibilisation sur la paix et la cohésion pacifique.
Une mère de bénéficiaires, pour elle, cela évite les déviations.
Ces jeunes ne pourront pas être visités par les bandes armées ni s'intéresser à leur paillage.
La disponibilité de cette ONG Étoile du Bunkani qui adhère à ce projet par la voix de son chargé de projet, Daoulo Toussaint.
Marquer notre disponibilité à continuer la collaboration avec l'agence emploi jeune dans la recherche de solutions pour aider les jeunes à pouvoir être plus responsables et apporter leur contribution au développement local.
Un stage d'immersion consiste à mettre en situation d'emploi des jeunes scolarisés dans divers services pendant les vacances en vue de les occuper sainement en les préparant au monde réel du travail. Jérôme Kwasi Kru, Bouna, Radio de la Paix.
Retour à Abidjan où 80 chercheurs issus des pays de l'Afrique de l'Ouest ont pris part du 19 au 21 septembre à un séminaire sur le changement climatique et la biodiversité à Abidjan en vue du renforcement de leurs capacités et faire face aux défis liés à cette problématique. Les échos de cette conférence avec Zeynab Diomandé.
À l'initiative de l'école doctorale Wascal ou le Centre scientifique d'Afrique de l'Ouest sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres et de l'AICRA, accélérer les impacts de la CJA sur l'Afrique, Alcalde Seignon, responsable scientifique du programme AICRA, donne les attentes de ce séminaire.
C'est que dès qu'ils vont rentrer, ils vont pouvoir intégrer ces modules de formation-là dans les cours qu'ils font aux universités pour qu'à terme, on puisse avoir une nouvelle génération d'experts qui soient formés sur les innovations AIC. Cette nouvelle génération d'experts doit avoir des compétences, des expertises pour pouvoir mettre en œuvre ces innovations-là quand ils seront dans leurs entreprises ou dans leurs fermes ou bien les institutions.
Il revient sur l'urgence de la question climatique en Afrique de l'Ouest.
Ça a des impacts sur les moyens de subsistance, sur comment nous fonctionnons, comment les producteurs travaillent, leurs activités économiques. Si vous prenez par exemple le dernier rapport du GIEC, le rapport a montrer que le climat a changé. Ce changement est dû aux activités anthropiques. Et ce rapport aussi a montré que les impacts sont vraiment catastrophiques. Et il est important qu'on puisse agir pour pouvoir préparer aussi bien les individus, mais également les institutions à répondre à ces nouveaux défis que pose le changement climatique.
Notons que le troisième jour a été consacré à une phase pratique dans la ville d'Azaguié.
Nous le disions en titre, en économie, des hommes et des femmes d'affaires se sont réunis du 20 au 21 septembre 2023 à Abidjan-Cocody lors d'une rencontre internationale d'affaires appelée Makutano. Pour la première fois, cet événement se déroule en Afrique de l'Ouest. C'était l'occasion de développer les échanges entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo et de travailler au développement des économies du continent africain. C'était également pour eux un cadre propice de se ménager des opportunités d'affaires et d'élargir leurs horizons. On en sait un peu plus avec Mel Emmanuel.
Makutano, c'est en swahili. En français, c'est une rencontre.
Deuxième et dernière journée de la 9e édition du Forum international des affaires dénommé Makutano 9, ce jeudi 21 septembre 2023 à Cocody. Sur place, se tiennent des panels, des ateliers et des débats inscrits au programme du jour. Présentes pour la circonstance, différentes personnalités venues d'ici et d'ailleurs nous partagent l'importance de ce forum pour eux.
Sarah Kitoko de la République démocratique du Congo pour les comptes de notre entreprise Moderna Construction Congo. Makutano, c'est une très belle opportunité qui se présente à bon nombre des investisseurs, mais aussi un réseau d'affaires où nous rencontrons aussi beaucoup d'autres investisseurs avec qui nous profitons pour faire connaissance, partager aussi les expériences dans différents domaines.
Nikana Ouedraogo, directeur de la Société pour le Réveil de l'Afrique. Le Makutano représente un événement particulier d'opportunités qu'on peut avoir, des échanges entre la Côte d'Ivoire et le Congo, éventuellement pour nos activités que nous voulons tenir ici en Côte d'Ivoire. en Afrique aussi. Donc cet événement est un pont qui va nous permettre d'élargir nos horizons surtout.
Pour Herman Touvoli, opérateur dans le secteur des énergies renouvelables à New York, c'est une première.
C'est la première fois que je le découvre et je suis agréablement surpris parce que pour nous qui existons sur des marchés aussi exigeants que le marché américain, des réelles opportunités existent pour nos pays.
Habituellement organisé en Afrique centrale, notons que la 9e édition du Forum international d'affaires Makutano 9 s'est tenue pour la première fois à Abidjan du 20 au 21 septembre 2023.
L'actualité nationale est aussi marquée par la lutte contre la vie chère. Le gouvernement ivoirien a à cet effet annoncé la suspension à titre conservatoire de l'exportation du riz local et du sucre pour la période allant du 18 septembre au 31 décembre 2023. Ces mesures ont été conjointement arrêtées par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra Souba, celui du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobena Kwasi Adjumani, le 18 septembre 2023. Elle s'inscrit ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie en vue d'assurer l'approvisionnement régulier du marché national. Sur la portée de ces mesures, suivons la réaction de Marius Komoué, président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire.
Nous saluons déjà l'initiative du gouvernement de se préoccuper du bien-être des populations dans sa politique sociale et la mise en œuvre d'une telle mesure de suspension du riz fabriqué au plan local à l'extérieur est plus que salutaire, étant entendu que les besoins nationaux se font de plus en plus sentir et l'exportation de ces deux produits importants de grande consommation constitue naturellement un point saillant au niveau du pouvoir d'achat de l'Ivoirien, si tel est que l'un de ces produits venait à manquer, cela créerait assurément la spéculation. Nos gouvernants devraient naturellement continuer dans ce sens en veillant à ce que la Côte d'Ivoire puisse naturellement produire elle-même du riz sur l'ensemble de son territoire national pour son autosuffisance. Pareil pour le bétail que de confier notre ventre à l'étranger.
Sur le même sujet, Soumaoro Ben Mfali, le président de la coalition des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, estime qu'au-delà de cette suspension, l'État doit accompagner sa jeunesse à la culture du riz en grande quantité pour réduire l'importation.
La nourriture qui ne suffit pas à la famille, on ne peut pas l'envoyer ailleurs. Et c'est ce qui nous arrive. Nous aussi, nous cultivons du riz, pas en grande quantité, mais nous savons aussi que notre riz sort du pays. Il y a aussi un trafic, il y a un approvisionnement des pays voisins qui sort hors taxe. Et donc, cela aussi a une conséquence sur la consommation nationale. Donc, c'était tout à fait normal de bloquer l'exportation pour que le marché national soit approvisionné. Mais c'est juste cette décision provisoire et nous sommes en train de préparer des rencontres pour que nous quittions dans les discours pour aller dans les pratiques. La Côte d'Ivoire compte 31 régions. Toutes les régions peuvent produire du riz en grande quantité. La Côte d'Ivoire peut devenir exportateur de riz. Et pourquoi nous devons dépendre de l'extérieur? Et quand on va régler ce problème, il faut que l'État réquisitionne ces différentes terres cultivables pour faire le riz. Et ensuite, l'État doit accompagner des jeunes qui veulent se retourner à la terre pour motoriser l'agriculture.
Soumaoro Ben Mfali, le président de la coalition des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, et bien avant lui, Marius Komoué, président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, ont été tous deux joints par César Yao. On se rend maintenant dans le Gord pour parler d'approvisionnement en eau potable. L'eau qui coule dans les robinets dans cette région provient de Zambakro dans la région du Bélier. Ajoutez à cela d'importants travaux de remplacement de tuyaux et d'extension du réseau en cours dont la fin est prévue pour 2024. Les ménages et les nouveaux quartiers de Gagnoua ne connaîtront plus de déficit en eau potable, au dire du directeur régional de l'hydraulique de la région du Gord. Écoutons à cet effet Nyakpa Zegui dans des propos recueillis par notre correspondant régional dans le Logibois et le Gord, Abel César Cassin.
Il y a eu le projet 1 qui a permis de prendre l'eau depuis Zambakro, à peu près 120 km, qu'à Gagnoua. Et sur ce tronçon-là, il y a eu 9 châteaux d'eau qui ont été construits, dont 5 de la partie de Gagnoua, a coûté à peu près 73 milliards. La deuxième phase qui est actuellement en train d'être exécutée, c'est la phase d'extension du réseau d'eau potable pour que Kanyoua soit soulagé dans tous ses compartiments, tels que par exemple, on prend Dignabaï, Durabougou, tous ces quartiers où il n'y avait vraiment rien. Cette deuxième phase a commencé depuis octobre 2022 jusqu'à fin 2024. Le problème 2 sera vraiment résolu. 229 000 mètres linéaires vont être posés à Gagnoua. Les canalisations en amont de ciment vont être remplacées. Non seulement vont être remplacées, le réseau lui-même sera encore renforcé par des gros tuyaux pour que véritablement tout Gagnoua soit desservi. Et comme nous savons que l'État a quand même une préoccupation majeure par rapport aux ménages démunis, il y aura également la phase branchement sociaux.
Nous écoutions à l'instant Nyakpa Zegui, le directeur régional de l'hydraulique de la région du Gor, à l'instant sur Radio de la Paix. L'actualité africaine nous conduit en Centrafrique où l'ex-président centrafricain François Bozizé, chef de la principale coalition rebelle, aujourd'hui en exil, a été condamné hier jeudi aux travaux forcés à perpétuité à Bangui, notamment pour complot et rébellion, selon un jugement transmis ce vendredi à l'AFP par le ministère de la Justice. Il a été condamné à cette peine par contumace, comme deux de ses fils et 20 autres co-accusés, dont des chefs rebelles importants. Le jugement ne précise ni les crimes ni la période concernée. Âgé aujourd'hui de 76 ans, l'ancien président centrafricain François Bozizé, qui s'était emparé du pouvoir en 2003 par un coup d'État avant d'être renversé 10 ans plus tard par des rebelles et réfugié au Tchad jusqu'en mars 2023, date à laquelle il s'est exilé en Guinée-Bissau, est actuellement le coordinateur de la coalition des patriotes pour le changement CPC, la principale coalition rebelle centrafricaine formée en décembre 2020et qui poursuit en ce moment une guérilla dans le nord du pays. Il est temps donc de suivre l'invité de la rédaction sans transition. Nous le disons en titre, le regard des chapelles politiques sur l'élection des sénateurs du samedi 16 septembre 2023 se poursuit sur Radio de la Paix. Après le RHDP et le PDCI RDA, le plateau de l'invité de la rédaction reçoit aujourd'hui le FPI, le Front Populaire Ivoirien, en la personne de Kwaku Kra. Il est le vice-président du FPI chargé des questions électorales et il répond ici aux questions de Soro Adams.
Bonjour, monsieur le vice-président Kwaku Kra.
Bonjour, Soro Adams.
Au terme des élections sénatoriales qui viennent de se dérouler en Côte d'Ivoire, que dites-vous de l'organisation de ces élections? Que dites-vous de la prestation de votre parti, le Front Populaire Ivoirien?
Dans la forme, nous pouvons dire que les élections se sont bien tenues. Le Front Populaire Ivoirien a participé la plupart à cette élection qui se sont déroulées le 16 septembre 2023. Mais les résultats n'ont pas été bons.
Et qu'est-ce que vous obtenez au terme de ce scrutin?
Ce que nous avons pu obtenir, c'est l'affichage, parce que le jeu était déjà coupé à partir des résultats des élections locales. L'électorat des sénateurs est fondé sur les grands électeurs, c'est-à-dire les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. À ce niveau, nous avons fait moisson maigre, ce qui n'a pas permis donc de pouvoir soutenir vaillamment des candidats afin de pouvoir triompher le 16 septembre 2023. Nous avions eu 3 candidats dans 3 régions. La région du district d'Abidjan, la région du Moreno et la région du Démon, où l'élection ne s'est pas tenue. Et nous n'avons pas pu remporter un siège. Donc, la quasi-totalité des sénateurs ont été élus par le RHDP.
Et comment réagissez-vous?
Parce que, dans l'ensemble, le scrutin s'est bien déroulé, dans la forme. Mais au niveau du fond, c'est un déséquilibre. Au sommet de l'État, l'exécutif, nous avons la quasi-totalité des membres du RIDP. À l'Assemblée nationale, nous avons la quasi-totalité des membres du RIDP. Et puis, au Sénat, nous avons la quasi-totalité des membres du RIDP. Ça voudrait bien dire que la démocratie est biaisée. Et je pense qu'à ce niveau, des réflexions vont être menées pour voir comment on peut équilibrer le jeu de sorte qu'il n'y ait pas l'hégémonie, surtout du parti au pouvoir sur les autres partis politiques.
Des réflexions seront menées, mais à quel niveau et avec qui?
Dans un premier temps, au sein des organisations politiques, avec la société civile et avec le gouvernement. Et à la fin de ce processus, il faut engager un dialogue politique pour essayer de faire le bilan de la tenue de toutes les élections que nous avons eues depuis 2020, pour voir quelles sont les imperfections, quelles sont les irrégularités, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et je pense que le gouvernement devrait être sensible à une telle convocation.
C'est une proposition de votre parti, le FPI?
Oui, c'est une proposition. Nous proposons que le gouvernement, à l'issue de ces élections générales, un dialogue politique soit convoqué afin de réfléchir sur les différentes règles qui ont permis donc de constituer ces institutions.
Alors, vous dites que la démocratie, avec la suprématie du parti au pouvoir à tous les niveaux, la démocratie serait biaisée. Ça voudrait dire quoi?
La démocratie, c'est le jeu de l'équilibre entre l'opposition et le parti au pouvoir. Parce que l'opposition a pour vocation de contrôler l'action du parti au pouvoir. Et si donc cette opposition n'existe que de nom, vous convenez que le contrôle va s'exercer difficilement et les abus, certainement, s'il y en a, ne pourront pas être corrigés, ne pourront pas être dénoncés. C'est cela qu'il faut un jeu équilibré. De sorte que dans les institutions, surtout au niveau du Parlement, que les choses soient équilibrées, de sorte que l'opposition puisse avoir une voix prépondérante au niveau du Parlement pour exercer de plein droit son rôle de contrôle sur l'exécutif.
Et dans l'attente de la réponse qui vous sera donnée à cette proposition, que dites-vous à vos militants du FPI?
Ben, nous leur demandons de se remobiliser, aller sur le terrain, de donner les chances de réveiller nos structures et faire en sorte que les prochaines listes électorales nous soient favorables.
Ben, votre parti, le FPI, aura-t-il un candidat à l'élection présidentielle de 2025?
Un parti, normalement, a pour vocation d'avoir un candidat. Dans ces conditions, je peux dire oui, mais notre parti, il y a beaucoup de conditions à remplir. Et comme nous n'avons pas encore évalué ces conditions, nous ne pouvons pas aujourd'hui affirmer qu'on va avoir un candidat.
Je vous remercie, monsieur le vice-président Kouakoukra.
Merci, Soura Dams.
C'était donc l'invité de la rédaction de ce vendredi. Kouakoukra, vice-président du FPI chargé des questions électorales, répondait aux questions de Soro Adams. Ceci marque la fin du journal. Voici le rappel de l'essentiel. Les délibérations du Conseil d'État sur le contentieux électoral lié aux élections locales du 2 septembre 2023 ont débuté hier jeudi 21 septembre. Pour cette première journée de délibération, ce sont 15 requêtes qui ont été traitées par les juges du Conseil d'État. Vous avez eu les détails en début de ce journal. Et actualité, en Centrafrique, l'ex-président Bozizé en exil condamné à la perpétuité pour rébellion. Voilà, c'est la fin donc de ce journal de midi. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 15h. Mais avant, la revue de presse de Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous. La CAF, la Confédération africaine de football, s'est prononcée dans un rapport sur l'inondation de la pelouse du stade d'Olympique.